9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark.
À peine en vacances et déjà harcelé par Culture Média. Bonjour Patrick Cohen.
Bonjour Pascal.
Bien dormi ?
Oui. Oui, je vous remercie. Oui.
Je vous dérange parce que j'avais une petite question à vous poser. Dès cette première du Culture Média Estival, ça ne pouvait pas attendre. J'y vais. Qu'est-ce que ça fait d'être aimé ?
D'être aimé, vous faites allusion aux messages des réseaux sociaux, des choses comme ça.
Je vais expliquer parce que je sais. Je vais expliquer un petit peu.
Avant.
Non, ça s'est passé pendant le confinement. Hein. Vous étiez à l'antenne tous les soirs, à la télé, en plateau, dans l'émission de France 5, c'est à vous. Et il se trouve que vos interventions ont été fort remarquées en bien. Est-ce que vous avez senti passer cette vague-là comme une vague d'amour ?
Oui, mais je garde toujours beaucoup de distance avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je me méfie des emballements de Twitter et autres messages Facebook. Et puis, à côté de ces messages d'amour ou d'estime, comme vous voudrez, j'ai eu aussi mon lot de de critiques et de donc voilà. Mes interventions ont été remarquées, elles ont été diversement appréciées. J'ai eu quelques retours de d'affection ou d'estime, ça fait toujours plaisir, mais je n'en fais pas un baromètre de ce que je produit ou de la qualité de mon travail. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir des messages et des retours qui marquent de l'intérêt pour ce que vous faites, mais je garde de la distance avec tout ça.
Quand cette chose inouïe nous est tombée dessus, cet événement qui a quand même neutralisé la quasi-intégralité de la planète, comment avez-vous abordé cet événement ? Comme journaliste, évidemment, comment vous êtes-vous dit « je vais le traiter » et comment faire ?
Écoutez, d'abord, je ne l'ai pas vu venir, comme beaucoup. Moi, j'étais très très incrédule face aux perspectives, parfois alarmistes, qui étaient données sur certaines chaînes d'information. Il y avait, bien avant le confinement, il y avait des spéciales. Je trouvais ça démesuré. Vraiment, j'ai été, comme beaucoup de non-spécialistes, et parfois même comme un certain nombre de spécialistes, complètement surpris, estomaqué par ce qui nous tombait dessus. Et puis ensuite, j'ai trouvé que c'était une matière passionnante, foisonnante, avec une masse d'informations. J'ai eu le sentiment de devoir faire mon travail, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui nous arrivait, quelle était cette maladie nouvelle et inconnue qui nous tombait dessus, qui nous contraignait à nous enfermer chez nous. Et puis c'était c'était une période journalistique vraiment passionnante, parce qu'il y avait énormément d'informations scientifiques dans tous les domaines. Donc j'ai essayé de comprendre d'abord moi-même, et depuis de faire comprendre ce qui nous arrivait, ce qu'on savait, ce qui nous connaissait, ce qu'on connaissait. J'ai très vite pris contact avec des médecins, des scientifiques, des chercheurs. J'avais un petit réseau, un petit nombre de gens que je consultais régulièrement. Je regardais les études aussi. J'ai beaucoup vu. Après, j'ai lâché parce qu'il y en avait trop, les études scientifiques qui paraissaient dès le début de l'épisode, en mars, en très grand nombre, chaque jour. Et donc voilà, j'ai essayé de construire quelque chose et un faisceau de connaissances et d'explications qui pouvaient être utiles au grand public.
Et on va quand même réécouter quelques secondes ce que ça donnait. Ça donnait ça, exemple, à la recherche des masques manquants.
Alors, s'il y a gâchis, il est d'abord dans la façon dont l'État a laissé filer ses stocks depuis 10 ans, longue histoire sur laquelle je vais revenir. Mais je vous présente d'abord le vaste hangar qui, s'il avait été rempli, bien rempli, aurait pu tout régler. C'est la plateforme nationale des stocks stratégiques de santé.
Voilà, ça durait 5-6 minutes, on ne peut pas tout repasser. Il y a eu beaucoup de vues en ligne. Ce fut une crise aussi sans certitude. Ne pas savoir, chacun a dû s'y faire, les médecins, les politiques et aussi les journalistes. Ça vous a décontenancé, vous, ou vous avez intégré ça dès le départ ?
Oui, je l'ai intégré et voyez, en réécoutant le petit extrait que vous venez de diffuser, j'entends que je dis une bêtise parce qu'aujourd'hui je disais voici le hangar qui, s'il avait été rempli, aurait pu tout régler. Aujourd'hui, je suis à peu près convaincu que si ce hangar avait été rempli d'un milliard de masques, ça n'aurait pas pu tout régler. Ça aurait pu régler la question des masques sur laquelle on a beaucoup glosé et sur laquelle on a fait une sorte de fixation qui est assez unique d'ailleurs en Europe, hein, en France. Mais ça n'aurait pas pu régler la question de l'épidémie. Et non, je suis à peu près convaincu qu'on aurait pas pu éviter le confinement s'il y avait des masques. Oui, cette incertitude, elle est consubstantielle à la démarche scientifique, à l'examen des connaissances sur une maladie nouvelle, connaissances qui n'ont cessé d'évoluer pendant toute la durée de l'épidémie. Ce qu'on sait aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on savait début mars. C'est pour ça que les lectures rétroactives ou rétrospective sur mais évidemment on le savait depuis décembre, il aurait fallu faire ça, c'était très simple, etc. Je pense que c'est particulièrement énervant et faux. Tout simplement.
Dans ce maelstrom, il y a évidemment le cas Raoult, professeur Didier Raoult de Marseille. On va en reparler, c'est tout de suite après la pub. Ne bougez pas, Patrick Cohen, et vous non plus qui nous écoutez, bonne matinée à vous sur Europe 1.
9h, 11h, Culture Média, Pascal Clark.
Patrick Cohen d'Europe 1, Patrick Cohen de C'est à vous sur France 5 est l'invité média de ce lundi 6 juillet. Et fatalement, tout au long de vos chroniques confinées, Patrick, vous êtes heurté au cas Didier Raoult, professeur de Marseille, soutenu, mordicu, celui et sa chloroquine par des tas de gens. Comment avez-vous abordé ce phénomène qui a fait que vous avez été taxé d'anti-Raoult ?
Alors, d'abord, Didier Raoult, je l'avais croisé une fois ou deux, je crois que c'est deux fois auparavant sur le plateau de C'est à vous. Ces dernières années, il venait de présenter ses livres, et dès qu'il est réapparu sur la scène médiatique et scientifique, moi j'avais quelques warnings qui s'étaient allumés, c'est-à-dire que un scientifique qui petit un dit, il l'a dit dans ses livres et dans ses chroniques, qu'il ne croyait pas au réchauffement climatique, ou plus exactement que le réchauffement climatique, il ne le voyait pas, petit 2, que Darwin avait tout faux, il en a fait un livre, et petit 3, que il y a des questions à se poser sur les vaccins et sur le nombre de vaccins administrés, ne serait-ce que ces trois choses-là, moi ça me pose un problème. Et je vous parle de warning allumé sur le crédit scientifique qu'on peut accorder à quelqu'un qui avance tout ça sans démonstration et à rebours du consensus scientifique général sur ces questions-là.
Donc quand la crise sanitaire explose, vous n'avez pas une énorme confiance en lui, pour dire les choses clairement.
Méfiance. Je le dis d'ailleurs à la rédaction d'Europe 1, parce que on l'a dès le lendemain de sa conférence fin de partie, on a trouvé le remède, la chloroquine d'ailleurs, qui n'était pas l'hydroxychloroquine à ce moment-là, il a changé de traitement en cours de route. Je dis attention, ce type est marginal, en tout cas il faut regarder de près, etc. Bon, et puis ensuite il y a les études qu'il a produites, les documents qu'il a publiés.
On va pas refaire toute l'histoire, on n'a pas le temps, mais que faire face à tous ces gens qui le suivent, qui le soutiennent, Patrick Cohen ?
Eh ben, essayer d'apporter un peu de rationalité, d'éléments d'explication, de faits, de logique. C'est difficile, c'est très difficile, et je suis pas certain d'avoir convaincu ou d'avoir fait changer la conviction de qui que ce soit. Mais bon, voilà, il faut faire le boulot quand même et essayer de montrer les failles du raisonnement ou d'une démarche scientifique contestée par la plupart, sinon par la quasi-totalité des scientifiques. Mais il fallait écouter son discours et ses interventions. Moi, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Raoult et c'est évidemment intéressant et c'était contestable.
Vous trouvez qu'il est de plus en plus compliqué à exercer ce métier de journaliste, comme on dit, en période de post-vérité ?
Oui, il y a la période de post-vérité, il y a aussi la puissance des chaînes info qui naturellement, parce que c'est leur fonction, c'est leur mécanique, créent de la controverse. Elles sont là pour ça. Enfin, les talks qui sont du matin au soir sur les chaînes info, si vous réunissez autour de la table des gens qui sont d'accord entre eux, enfin ça ne marchera pas et ça ne fera pas d'audience. Donc, il y a un phénomène de surreprésentation des opinions minoritaires. Dans le cas Raoult ou dans le cas de la crise du Covid, ça aboutit à donner le sentiment qui est celui assez général, que les scientifiques ont passé leur temps à se foutre sur la gueule et à étaler leurs désaccords, ce qui, je crois, n'est pas vrai. Il y avait un très grand consensus scientifique sur la plupart des questions. Quelques dissidents, dont Didier Raoult, mais qui ont fait beaucoup de bruit et qui ont alimenté des heures et des heures d'antenne et de controverses, et donnant cette impression de confusion générale, de chaos et de bataille scientifique qui, je crois, n'existait pas. Donc il y a ce système-là aussi qui a beaucoup pesé pendant cette crise.
Toute autre chose, dernière question, après je vous laisse profiter de vos vacances. On va recevoir Olivier Mine cette semaine. Et comme vous avez participé deux fois à Fort Boyard, vous aurez une question pour lui, on la met de côté.
Pour Olivier Mine, eh bien, écoutez, non, j'ai des très bons souvenirs de Fort Boyard, même si c'était mouvementé, presque aussi mouventé que mes aventures du Covid. J'ai été catapulté depuis le fort je n'ai pas très envie de recommencer très vite. Voilà.
Okay. Merci beaucoup Patrick Cohen, profitez bien de vos vacances. On vous retrouve à la rentrée sur France 5 dans C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Et sur Europe 1, évidemment. Et comme vous êtes devenu une coqueluche, selon le mot d'un papier du Monde, eh bien, c'est contagieux d'être coqueluche. Donc voilà, ça va nous porter chance.